Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris. Une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès.
Ce mois-ci, les Colibris d'Alès se sont penchés sur la question de comment réduire nos déchets. La soirée des Jeudis des Colibris, qui avait lieu comme chaque troisième jeudi du mois à la boutique solidaire du Faubourg de Rochebelle, avait pour titre « Plus belle, ma poubelle ». Au programme, un état des lieux de comment sont gérés nos déchets localement, puis le point sur le tri sélectif, suivi d'une explication sur comment faire son compost et enfin de la présentation de Canturla, l'épicerie vrac zéro déchet à Alès. Voyons tout de suite comment sont gérés nos déchets dans l'agglomération du Grand Alès grâce à un exposé de Julie Perrin.
Bonsoir à tous. Oui, alors moi, je suis Julie Perrin, j'habite à Salindres et je suis membre de l'ADISL, donc l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes, qui a lutté contre l'implantation de l'usine de tri mécanobiologique à Salindres. Je vous raconterai un peu plus ce que c'est après. Bon, maintenant, je suis nettement moins active dans l'association, mais à l'époque, je m'étais beaucoup impliquée sur l'élaboration d'une solution alternative pour le traitement de nos déchets. Donc, c'est un projet qui me touche encore, parce que pour acheminer les déchets jusqu'à cette usine, d'après les élus, il faut une route. Et cette route devrait passer dans les espaces naturels autour de chez moi et dans mon jardin sur mes vignes. Donc c'est à ce titre de citoyenne encore concernée que j'interviens ce soir en fait. Et c'est vrai que du coup, il fallait que je fasse de la mise à jour parce que ça remonte à une dizaine d'années cette histoire et les choses ont évolué sur le territoire. Donc voilà. Oui, donc là, je vais vous parler du traitement des déchets ménagers. Je ne vais pas parler des déchets d'activité industrielle ou quoi que ce soit. Déchets ménagers, c'est-à-dire le tri sélectif, les ordures résiduelles et ce qu'on apporte en déchetterie, voilà, les apports en déchetterie, sur le territoire de l'agglomération d'Alès. Mmh. Je précise parce que...
Ok, c'est parti.
Oui.
Nous avons 10 minutes.
La suite, vous pourrez aller la voir parce qu'en 10 minutes, c'est un challenge hein, de faire ce genre de synthèse.
Oui, c'est simplifié. Enfin, c'est localiser les différents acteurs et savoir un peu quelles installations techniques pour quels déchets. Donc, le traitement des déchets, la plupart du temps, il est pris en charge par des syndicats intercommunaux auxquels les communes ou les communautés de communes adhèrent. Et c'est le cas chez nous sur l'agglo d'Alès. En fait, il y a deux syndicats de traitement des déchets différents. Donc il y a le CITOM Sud-Gard. CITOM, c'est Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères. Donc il regroupe 81 communes et à peu près 300 000 habitants, mais sur la communauté d'agglo, c'est la partie sud en fait. Ce losange là au sud, donc avec les communes par exemple de Vézenobre, d'Eau, Massane, Saint-Hippolyte de Caton et au sud Boucouaram. Et donc pour l'agglo, ça représente 18 communes 11 000 habitants et à peu près 4 500 tonnes de déchets. Après, l'autre partie de l'agglo, pour l'autre partie de l'agglo, les déchets sont traités par le SMIRITOM. C'est un syndicat mixte de réalisation des installations et de traitement des ordures ménagères. En fait, maintenant, dans la nouvelle agglo, il va y avoir le pays Grand Combien, la communauté de communes du pays Grand Combien, la communauté de communes de Vivre-en-Cévennes. Enfin, tout cela vont rentrer dans l'agglo et la communauté de communes des Hautes-Cévennes. Pour le moment, moi, je vais déjà dire comment c'est sur l'agglo actuelle. Donc, le SMIRITOM, c'est... En tout, 69 communes, mais si on considère que l'agglo, en fait, c'est 32. Et donc, ça représente 89 000 habitants et 53 000 tonnes de déchets. Là, c'est tout confondu, par an. Ça complique un peu les choses pour expliquer ce soir, là, qui est deux syndicats, mais c'est intéressant parce qu'ils sont organisés de façon assez différente. Alors, je vais d'abord parler du SITOM, Sud-Gard, donc le petit losange du Sud. Je n'ai pas parlé de la collecte, mais là, dans ces deux cas, elle est déléguée aux communautés de communes. Et dans le cas du SITOM, lui-même, enfin, dans cette zone géographique-là, elle est même déléguée à un prestataire. Donc, pour le traitement des déchets, la partie de tri sélectif... Donc, sur cette zone de l'agglo, c'est les bacs ou les sacs bleus, et donc tous les emballages ménagers. Tout ça, ça part au centre de tri Valréna, qui est situé à Nîmes, et qui est ouvert depuis mai 2015. Avant, il y en avait un autre, mais c'est celui-là, plus moderne, qui l'a remplacé.
C'est ce qu'on voit avec l'étoile qui est là.
Voilà, oui, il y a aussi l'incinérateur à Nîmes. Enfin, l'étoile là montre au moins ces deux installations-là. Okay. Et eux, ils trient, ils séparent en balles, ils font des balles homogènes des matériaux issus du tri, donc des balles de carton, des plastiques différents, des métaux différents. Et... Issu de ce tri, il y a à peu près 10% de refus pour l'agglo. Et ces taux de refus et les ordures ménagères résiduelles, donc nos sacs noirs, ça part à donc cet incinérateur Evolia qui a ouvert en 2004.
À Nîmes aussi.
Et qui, c'est une unité d'incinération qui récupère 43% de l'énergie thermique du brûlage des déchets et qui le réinjecte dans son propre circuit et dans le réseau de chauffage urbain et le réseau électrique. De cette incinération, il y a des résidus, donc des résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères, qu'on appelle souvent réfium, pour aller plus vite. Ça part à l'enfouissement dans le Tarn, dans un centre de stockage spécialisé. Et les mâche-fer, dont la partie solide de l'incinération, là, on peut encore récupérer des matériaux, des métaux, et puis on peut utiliser une partie pour les routes. Mais il reste quand même encore quelque chose qu'il faut aussi enfouir. Et je pense que ça part aussi dans le Tarn, vu que c'est les mêmes conditions de stockage pour ces déchets-là. Alors la particularité là, du SITOM, c'est qu'il est propriétaire et exploitant de Valréna et de l'incinérateur. Et c'est aussi lui qui passe les marchés avec les repreneurs de matériaux pour le tri sélectif. Donc c'est lui qui fixe les prix avec les repreneurs de matériaux, c'est l'interlocuteur direct.
Donc si j'ai bien compris, le SITOM, il gère de A à Z. Il collecte, il transforme, enfin, ou il incinère, etc., ou il trie, et ensuite il revend.
La collecte, c'est la...
Nicolin,
oui. Et puis, il y a une chose aussi, c'est tout ce qui est en déchetterie sur le territoire géré par le SITOM. À part la benne de carton qui rejoint le centre de tri Valréna, Le reste, c'est des marchés qui sont passés aussi avec des prestataires. Donc les déchets verts, par exemple, c'est géré par soit par Cita Sud à Marguerite, une aire de compostage à Marguerite, soit à Cévennes Déchets à Alès. Voilà, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est en benne, en déchetterie, c'est des marchés passés avec des entreprises. Puis ce qu'il faut dire là, j'ai oublié de le préciser au début, mais si, le Sitom Sud-Gare a un site internet et il y a énormément d'informations dessus. Il y a les bilans d'activité par année, il y a les bilans environnementaux de l'incinérateur. Enfin, il y a vraiment un gros effort de transparence. Maintenant, je vais passer au Smiritom.
D'accord.
Là, son site internet, c'est une page blanche. Site en construction depuis l'année 2006. Donc, c'est pas tout à fait le même effort d'information. Sur le reste du territoire de l'agglo, donc celui qui est concerné par le Smiritom, pour les déchets du tri sélectif, ça part à Cévennes Déchets. Et donc, il joue le même rôle que Valréna anime, sauf que là, c'est une prestation déléguée à Cévennes Déchets, qui est un privé. Et donc, pour savoir vraiment quels sont les mouvements de matériaux, ce qui rentre, ce qui sort de Cévennes Déchets, ce qui est négocié, et c'est Cévennes Déchets qui négocie aussi la reprise des matériaux issus du tri. Donc c'est eux qui touchent le bénéfice de cette matière première, de ce qui redevient une matière première. Et pour le traitement des ordures ménagères, donc là, ça part dans cette usine dont je vous ai parlé au début, l'usine de tri mécano-biologique qui est située à Salindres. Cette usine, en fait, son fonctionnement, c'est que les ordures ménagères résiduelles qui ont été compactées dans les bennes sont ouverts et sont triés. Alors il y a du tri optique, il y a du tri aimanté et du tri manuel. Et on prétend séparer de ça ce qui est fermenté cible, de ce qui est recyclable, de ce qui est enfouissable et de ce qui est incinérable. Et donc le résultat de ça, c'est que il y avait un contrat, donc là aussi c'est une prestation de service qui est demandée à un privé, et le contrat avec Cita, en fait c'est Cita qui exploite ce site, donc c'était sur 50 000 tonnes de déchets entrants, 15% de compost normé, à peu près 8% de métaux et plastiques qui peuvent repartir dans le circuit du recyclable, 11% de valorisation énergétique et 45% qui part à l'enfouissement. Rapport d'activité 2015, 4% de compost normé, donc qui peut partir dans l'agriculture au lieu de 15%. L'année dernière, il y en a eu 0% et le compost qui est sorti de là était non normé et a été acheminé à la décharge de Saint-Bresse pour sa végétalisation. Et à part ça, 2,3% de déchets qui peuvent repartir, donc de métaux et de plastique qui peuvent repartir dans le tri. 30% d'incinération au lieu des 11 prévus et presque 60% d'enfouissement au lieu des 45 prévus au départ. Donc finalement, il y a 80% des déchets qui sont traités dans cette usine qui partent à l'enfouissement et à l'incinération. 6,5% de valorisation matière comprenant le compost et les métaux plastiques. Voilà, finalement, c'est un énorme quai de transfert qui a coûté 18 millions d'euros. Quand on sait que Valréna, le centre de tri, il n'y a pas le même objectif, mais enfin, c'est un outil qui est performant, qui fonctionne bien et qui a coûté pas tout à fait 8 millions d'euros. Sans compter l'histoire de route qui va venir s'ajouter qui n'est pas que liée à ça, mais enfin, voilà. Donc ça a coûté extrêmement cher pour un résultat vraiment pas bon, quoi. Alors qu'en plus, il y aurait vraiment des choses très intéressantes à faire. Dans notre poubelle résiduelle, il y a à peu près 30% de déchets fermentescibles. On estime à quasiment 60% ce qui pourrait encore, ce qui a été mal trié et qui pourrait encore être valorisé. C'est du gâchis. Enfin, il y aurait vraiment eu quelque chose à faire pour valoriser ça.
Moi, je connais quelqu'un qui habite et qui travaille, et ils disent qu'en fait, ils ne trient pas. Il n'y a pas assez de personnel, c'est pas rapide, ils ne trient pas.
Bah, vu les résultats, oui, c'est ça. Oui. A priori, c'est ce qui se passe.
Le plastique que nous, on trie, là-bas, il n'est pas trié.
On va juste laisser finir Julie et après pour tous les petits commentaires et questions, etc., on va faire ça plutôt en atelier après.
Oui, donc enfin, moi ce que j'ai à dire en conclusion de ça, c'est que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, mais avec les déchets qu'on a, plus on va trier à la source et moins ça va coûter cher à la collectivité et à l'environnement. Mais vraiment, ça va moins coûter cher quand on regarde le coût de l'enfouissement par rapport au coût du recyclable. Là, c'est Vézenobre qui a fait un document là-dessus, bon, qui date un peu, mais ça montre quand même bien qu'un déchet recyclable qui part dans une filière de recyclage coûte moins cher que s'il est enfoui. Donc voilà, plus on trie. Et en plus, quand on regarde sur le territoire, parce que nous, au moment de la lutte contre l'usine de tri mécano-biologique, on nous a souvent rétorqué, parce que c'était ça, en fait, la base de la solution alternative qu'on a proposée, c'était trier à la source et acheminer dans les filières. De valorisation bien spécifiques. Et on nous a rétorqué, oui, mais dans le sud, les gens ne savent pas trier. Quand on regarde rien que le taux de refus de tri de l'agglo au centre de tri Cévennes déchets, il est de 14%. Il est de 7,6% à Vivre en Cévennes. Vivre en Cévennes, c'est pas l'Allemagne ou la Norvège, c'est juste là à côté. Et ça fonctionne déjà un petit peu mieux chez eux parce que ils ont des bornes de tri. C'est de l'apport volontaire. Donc ça montre bien que si on met à disposition des gens ce qu'il faut pour bien trier et qu'on les sensibilise, enfin si on met les moyens là, c'est évident que on va arriver à bien trier à la source.
Bah merci pour ce constat. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par chez nous.
Oui, ouais. Bah avec plaisir. Merci. Merci à vous.
Quand je me douche plus de 10 minutes, je pense à l'ours polaire que je bute. Quand je m'emmerde dans les bouchons, j'imagine un iceberg qui fond. Si je laisse ma télé en veille, je m'endors d'un mauvais sommeil. Et si mes nuits sont polissonnes, j'assume pas mon bilan carbone. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Quand je passe l'aspirateur, je pense à des kilowatt-heure. Quant à mon chat qui est tout fripon, c'est un tigre en voie d'extinction. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Si je mange un fruit exotique, c'est pour qu'il reparte pas en Afrique. Une fois par an, quand je prends l'avion, je pense à l'ozone que nous avions. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Existe-t-il ce coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux.
C'était Benoît Dorémus avec Bilan Carbone. Vous écoutez le chant des colibris sur Radio 16 99.2. Le thème de cette émission, c'est Plus belle ma poubelle ou comment réduire nos déchets. Pour cela, plusieurs intervenants nous apportent leurs expertises après le constat de la gestion locale des déchets sur l'agglo par Julie Perrin. Un commentaire s'impose. Peut mieux faire. Voyons donc maintenant comment optimiser le tri sélectif avec Silver Dureuil.
Bonsoir Silver.
Bonsoir.
Donc c'est Monsieur Tri Sélectif, voilà, je vous le présente.
Alors je m'appelle Silver Dureuil et moi je suis ambassadeur du tri pour Alès Agglomération. Donc nous le tri sélectif aujourd'hui à peu près sur Alès Agglomération, ça représente à peu près 6000 tonnes. Donc ces 6000 tonnes vont se diviser par trois grandes familles, à peu près 1900 tonnes de verre. Ça, donc le verre, bien sûr, se trie par le biais d'un point d'apport volontaire. Par contre, il faut savoir que aujourd'hui, le sud de France, c'est vrai, c'est le constat des co-emballages qui fait des analyses. Malheureusement, nous sommes à peu près à 20 kg de verre recyclé sur 40 à 43 kg consommés. Voilà. Nous, sur Alès, on était même plus bas que ça, on était plutôt à 14 ou 16 kg par habitant. Donc ça veut dire que tout le reste finissait malheureusement dans les ordures ménagères. Et si ça finit dans les ordures ménagères, quand c'est cassé dans le compost, ça fait du compost miroir, comme on appelle. Pour ça, donc, le verre, donc on a fait il y a deux ans une forte sensibilisation auprès des enfants avec un petit challenge qui permettait en fait des tonnages récupérés supplémentaires sur les villages. Cet argent récupéré soit reversé directement aux écoles. Voilà. J'ai Saint-Jean-du-Pin qui a gagné, et Saint-Jean-du-Pin, ils ont fait quasiment plus de 20 tonnes supplémentaires, et 20 tonnes à peu près, ça fait à peu près une centaine d'euros par tonne. Voilà. Donc ils ont gagné presque 2000 euros qui leur a permis d'aller s'acheter divers outils pédagogiques pour les enfants. Ensuite, on a à peu près 1800 tonnes de tri sélectif fait par le biais soit de nos sacs jaunes, soit par le biais des conteneurs jaunes. Donc ça, c'est pour tout ce qui sera plutôt urbain ou semi-urbain, plutôt, on va dire, Alès et les villages proches, et plutôt pour les villages ruraux, Mialet, Toiras, Corbès, Saint-Jean-du-Gard, là-bas, on fonctionne avec ce qu'on appelle des points d'apport volontaires, ces grandes bornes, qui sont pour moi un des meilleurs outils pour le tri, car dans ces bornes, comme le disait tout à l'heure Julie, on a des taux de refus qui sont très faibles, parce que les gens qui se déplacent sur ces bornes sont déjà sensibilisés. Et vu que c'est classé par trois familles, verre, emballage ménager et papier, on fait plus attention de bien séparer les différents emballages recyclables. Alors, là on a aussi une très forte progression pour nous, pour Alès Agglomération, parce qu'on n'a pas que du négatif, et bien c'est surtout sur les campings. On a une très forte progression du tri des emballages des gens qui viennent en vacances sur notre agglomération. Ce qui nous fait plaisir, parce qu'il faut bien savoir que pourtant les champions du tri en Europe, les Allemands ou Hollandais ou Belges, quand ils viennent en vacances, ils l'apprennent assez cool sur le tri sélectif. Mais on arrive encore à les resensibiliser quand même pendant les vacances.
Bah, faut dire aussi que c'est pas très simple. Quand d'une ville à l'autre, ça change les couleurs des bacs, les couleurs des sacs, les gars, ils arrivent d'un autre pays, ça doit pas être simple.
Ce qui est bien en France, par contre, c'est que il existe 19 types de collecte et 19 types de consignes différentes dans le tri sélectif. Donc c'est sûr, ça, on va dire que ça peut embrouiller les gens. Alors que sur les bornes, par contre, sur les bornes, c'est national. Oui. Ah, bleu, ce sera toujours le papier. Les jaunes, toujours les emballages. Et le vert, bien sûr, pour le vert. Voilà. Okay. Et donc ça, c'est même une norme européenne. Et il faut savoir que la seule chose que les Allemands ont en plus, par exemple, pour eux, c'est que le vert, ils le trient par couleur. Vert marron, vert blanc. Et vert. Et le seul endroit où je connais ici, dans le Gard, c'est Tavel. Tavel trie le vert blanc, grand producteur de rosé. Et il faut savoir que le rosé, bien sûr, se vend dans les bouteilles transparentes. Et c'est un vert qui coûte plus cher. Parce qu'en fait, le vert naturel est de couleur verte. Et le vert blanc, il faut rajouter souvent d'autres produits pour pouvoir le faire blanchir. Donc il a une valeur supplémentaire. Après, pour le reste des tonnages, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc j'avais dit mes 1800 tonnes dans les sacs jaunes et dans les bacs. Et après, on va avoir à peu près 700 tonnes papier. Ça, c'est dans les points d'apport volontaires. Donc pour tout ce qui est les petits villages, il y a à peu près 800 tonnes d'emballage aussi par le biais des bornes. Voilà. ce qui nous fait à peu près 6000 tonnes, pas tout à fait 6000 tonnes de recyclage, voilà, pour l'année 2015. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi les emballages, on croule d'emballages, et je trouve que c'est vrai qu'on peut agir sur ça à la source. Moi-même qui ai un enfant, donc par exemple, pour un des emballages que je supporte plus, ce sont les pompotes, ces sortes de gourdes moitié plastique, aluminium, il y a d'autres solutions. Moi, j'ai acheté par exemple une gourde en silicone, voilà, qui me permet de la réutiliser à chaque fois et de préparer moi-même ma compote. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un déchet vraiment qu'on ne sait rien faire aujourd'hui à part faire des sacs, comme on peut voir dans la dame, c'est, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, je pense, le tri sélectif? Beaucoup, moi, qu'est-ce que j'ai la réflexion, c'est compliqué. Il faut le prendre simple, le tri. Il y a certaines personnes, des fois, moi, ce que je peux voir en porte-à-porte, beaucoup de réfractaires. Et ça, je peux vous le dire. Moi, je vois à peu près entre 10 000 et 11 000 personnes par an entre les porte-à-porte et les animations scolaires. Donc, je peux vous dire, j'en vois du monde. C'est difficile, c'est compliqué, il nous manque de la place. Oui. Alors, qu'est-ce que je dis, des fois, pour essayer de convaincre les gens? Trier un emballage, commencer par les bouteilles plastiques, par exemple, commencer par le verre. Parce que déjà, c'est déjà l'effort. Et après, de là, ça va découler d'autres... On va peut-être après se dire, ben, si j'arrive à trier mes bouteilles en verre, je vais me mettre à trier le plastique et après mon papier, etc. Ça, c'est aussi une approche que j'essaye d'avoir avec mes citoyens. C'est vrai, tout à l'heure, Julie a parlé, malheureusement, et aujourd'hui, pour que je pense qu'un tri soit performant, il faut que l'outil de centre de tri soit en régie municipale. Ça veut dire que si on ne met pas des fonctionnaires dans ces systèmes-là, dans ces structures-là, il peut avoir malheureusement des déviances. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça, je pense que ce sera certainement peut-être un futur projet, peut-être de l'agglo, de revoir ça. Et je sais que Nîmes nous attend avec grande impatience. Voilà, je pense avoir fait à peu près une présentation globale, on va dire, de notre tri.
Ouais, bah merci beaucoup. Et puis après, du coup, on peut te retrouver sur un atelier un peu plus détaillé pour poser des questions. Mais ça, est-ce que ça y va ou pas?
Ce soir, j'ai fait un petit atelier pour après, pour on fera surtout, j'ai fait un petit atelier logo, parce qu'on se mêle aussi, pareil, de beaucoup de logos sur les différents emballages qui nous embrouillent aussi, qui sont très compliqués à comprendre, et donc aussi qui nous induisent en erreur. Et donc, j'expliquerai les différents logos qu'on peut avoir sur certains déchets, mais aussi d'autres conseils de consommation raisonnable, si on peut le faire, bien sûr. Et j'essaierai aussi de donner des conseils de réutilisation, parce que j'adore ça aussi. Je suis quelqu'un qui pratique beaucoup la réutilisation. Et là, en ce moment, je suis en train de faire une Rocket Storm, une petite réchaud à partir de boîtes de conserve, voilà, pour ma passion.
Silver, je pense aux auditeurs qui vont écouter l'émission donc, du Chant des Colibris. Toi, en tant qu'ambassadeur du tri à Alès, si quelqu'un a envie d'en savoir plus ou d'organiser un petit groupe autour de ça, comment ils font?
Ils peuvent me contacter par notre mail. Alors, c'est ambassadeur.tri@alesagglomeration.fr. Alors là, ils peuvent nous envoyer. Moi, je préfère les mails parce que c'est vrai que je suis souvent sur le terrain. Et donc, un petit mail. Moi, le matin, je consulte mes mails et après, je peux intervenir parce que le portable ou du moins le téléphone du bureau, on est très peu souvent au bureau. Moi, c'est un métier de terrain. Voilà, donc,
et donc, ça rentre tout à fait dans ta mission de te déplacer pour aller donner plus d'explications aux gens.
Complètement. Je peux me permettre, même pour des petits groupes, de visiter aussi le centre de tri, parce que ce qui est bien de voir, c'est aussi voir ce centre de tri.
Alors, lequel centre de tri?
Alors, ben, moi, je fais visiter ces 20 déchets. Voilà, donc c'est sûr que c'est aujourd'hui pas un centre très performant et qui devrait à l'avenir au moins devenir un peu plus performant. Mais bon, au moins on peut voir une partie du tri. La filière bois aussi que j'aime bien montrer aux gens parce que quand même ça, on a une filière bois très courte qui permet de chauffer nous tout le quartier des Cévennes, la Grand-Rue Jean Moulin, ce qui représente à peu près 3000 appartements. Voilà, et sur une filière courte et de
développement durable. Tu veux dire grâce au bois qui est jeté?
Une partie du bois qui est jeté dans nos déchetteries et une partie du bois, bien sûr, qui est récupéré des Cévennes, surtout le pain qu'on essaye d'enlever au maximum.
Et ça va dans une chaudière centrale, c'est ça, qui chauffe plusieurs bâtiments?
Qui est juste en face et qui, en fait, alimente tout le quartier de la Grand-Rue Jean-Moulin, les collèges et bientôt le lycée qui va se relier à cette chaufferie.
D'accord, oui.
Y compris comme notre hôpital aussi, qui fonctionne grâce à une partie du bois qu'on récupère en déchetterie et une autre partie, bien sûr, qui vient de l'ONF ou de coupes privées.
Mmh. Bon, c'est pas une raison pour jeter les armoires de grand-mère. Hein. Ça passe d'abord à Emmaüs. Et Il n'est pas question de se chauffer avec des fauteuils Louis XV, quand même. C'est pas une raison. Bon, merci beaucoup en tout cas, hein, Silver. Je vais inviter José maintenant pour parler du compost.
Bonjour, je m'appelle José. J'ai été agriculteur pendant un certain temps, un temps certain. En un temps, enfin, agriculteur biologique, en un temps où ça faisait rigoler l'agriculture biologique. Et j'ai été initié par un certain Jean Pin. Qui connaît Jean Pin ? Ah, quand même. Vous savez qu'il est très peu connu en France et que c'est une vedette aux États-Unis. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays. Donc, ce que j'en ai tiré, donc, c'est une longue pratique personnelle que je vais essayer de résumer. Mais avant, je vais faire le lien avec mes collègues, donc les collègues qui sont passés et celle qui va suivre, à savoir les reprendre quelques chiffres qui ont été donnés, à savoir 50 ou 55 000 tonnes de déchets sur l'agglomération d'Alès, hein, si Julie, c'est à peu près ça. Donc sur ces 50 ou 55 000 tonnes de déchets, il y a, on va dire, entre 12 000 et 18 000 tonnes de déchets fermentescibles, de déchets qui pourraient ne pas être mis aux poubelles et qui pourraient être compostés directement. Ça veut dire un tiers de votre facture d'enlèvement d'ordures ménagères que vous payez chaque année avec l'impôt foncier, je crois, un tiers de moins, d'accord ? Ça peut vous motiver pour composter et pour aller moins souvent en déchetterie pour balancer vos tailles de haies. Ensuite, deuxième chiffre, Sylvain a parlé de éco-emballage. Éco-emballage, tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait ce que c'est exactement. C'est un organisme qui est 100% privé, qui a obtenu une délégation de l'État pour prélever une taxe qui est émise sur chaque emballage qui est fabriqué. Ce sont les producteurs qui paient les emballages. Mais vous imaginez bien qu'au bout du compte, c'est vous qui payez les emballages. Donc ça, c'est pour faire le lien avec ma collègue Laurie qui va me suivre et qui vous expliquera pourquoi éviter d'acheter des emballages pour les jeter. Parce que vous achetez l'emballage, vous payez les taxes et ces taxes vont servir théoriquement à payer des centres de tri, à payer notre ami Silver, à payer, à faire énormément de choses théoriquement très utiles. Mais je vous renvoie à différents articles de presse, dont un article dans le Canard enchaîné du 2 novembre qui explique de manière très précise comment les taxes prélevées dans la poche des consommateurs, dans notre poche, sert à payer des voyages. On vous dira pas que c'est des voyages d'agrément, mais quand on va dans des pays chauds en plein hiver pendant 8 jours tout frais payé, quand on est des hommes politiques, c'est qu'on a quelque chose à demander à ces hommes politiques. Et là, en l'occurrence, pour 2017, Eco-Emballage demande le renouvellement de son agrément. Donc en 2016, il y a eu pas mal de frais engagés pour
faire plaisir aux politiques.
Merci. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet qui est le compost. Quoi composter ? La première question, la question qu'on me pose à chaque fois, c'est « Ah oui, mais il faut mettre ci, il ne faut pas mettre ça. » Je vous mets à l'aise, on peut tout composter. Presque tout composter. On peut composter, la dernière surprise en date, c'est des matières grasses, des huiles. Alors, on ne va pas composter des huiles de vidange, parce que c'est très riche en métaux lourds en particulier. On évite ça. Mais les huiles alimentaires, les huiles de friture, il ne faut pas en avoir 50 litres. Hein, mais quand vous avez fait votre friture, si vous faites de la friture, vous pouvez très bien jeter, plutôt que de jeter dans l'évier, ce qui va poser des problèmes.
Après, vous utilisez des produits chimiques super toxiques pour déboucher l'évier, donc dans le compost.
Vous pouvez intégrer les graisses alimentaires usagées dans le compost sans aucun problème. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais agriculteur, j'ai eu à un problème à régler avec l'alimentation en électricité d'un bâtiment un peu lointain et j'avais un fil qui était trop court. Donc il fallait que je fasse une épissure, un raccordement en plein champ quasiment et j'avais rien pour le rendre étanche. Donc j'ai eu l'idée géniale de mettre le raccordement dans une bouteille, de remplir de cette bouteille de paraffine. Nickel. Pendant des années, aucun problème. Et un jour, court-circuit, j'ai cherché longtemps et j'ai fini par trouver que l'épissure, le raccordement que j'avais fait avec, et étanché avec de la paraffine avait été complètement mangée par les fourmis. Elle s'était régalée de paraffine. En fait, quasiment tous les produits sont recyclables. On va éviter tous les produits chimiques. Parce qu'il y a des accumulations, on a parlé des métaux lourds, mais il y a beaucoup de produits chimiques qui s'accumulent, qui vont s'accumuler dans le sol, qui vont s'accumuler dans les aliments, dans les légumes que vous allez faire pousser, dans les fruits que vous allez faire pousser, et qui vont s'accumuler dans vos graisses.
Bien sûr.
Et qui vont devenir toxiques à un certain moment. Donc, on élimine les produits chimiques, et dans les produits chimiques, je vais y mettre le sel. Parce que le sel dont vous vous servez pour saler vos aliments, à forte dose, il est toxique pour énormément de micro-organismes et d'insectes. Donc, si vous avez, par erreur, c'est arrivé, mis dans un gâteau la dose de sel à la place de la dose de sucre, le gâteau, vous allez avoir du mal à le recycler, sauf à en faire des petites miettes et à l'étaler bien sur le tas de compost et à le mettre en plusieurs fois, ou à le délayer dans l'eau pour délayer le sel. Mais sinon, tout se recycle. Chez les végétariens, il n'y aura pas d'os, il n'y aura pas de coquilles d'œufs. Mais chez ceux qui mangent de tout, il y aura de tout. Et tout se recycle. C'est une question d'équilibre. C'est une question, vous devez faire rimer compost et compote. C'est le même principe. C'est tout est dans le mélange. Il faut mélanger du sec et de l'humide, du carboné, et de l'azoté. Alors carboné, azoté, ça veut dire quoi? Le carboné, ça veut dire des végétaux qui sont outés. Les anciens savent ce que je veux dire, c'est-à-dire des végétaux qui sont devenus durs, qui sont devenus secs. Ligneux. Là, vous avez du carbone en stock. L'azoté, c'est tout ce qui est déchets ménagers, les tontes de gazon qui fermentent très vite. L'azoté, tout fermente très très vite. Et puis vous avez ce qui est un peu entre les deux, donc et vous devez aussi mélanger du grossier et du fin. Tout ça, ça se mélange. Alors ça se mélange comme ça vient. Et pour que ça se mélange de manière intelligente, presque tout seul, sans faire d'effort, parce que le but il est bien là. On a bien d'autres choses à faire que de faire du compost. C'est de faire un bac ou des bacs, parce qu'il y a mille manières de faire des bacs qui soient faciles à utiliser. La technique que j'ai retenue et que j'ai mise en place à la cantine solidaire, c'est un bac qui fait 1 mètre sur 1 mètre, à peu près 1 mètre 20 sur 1 mètre exactement, avec un couvercle. Ce bac, il est fait avec des planches de récupération de palettes. Alors la palette seule ne suffit pas parce qu'il y a trop d'écart entre les planches des palettes. Il faut vraiment que les planches soient resserrées, qu'il y ait de petits écarts, parce que le compost a besoin d'air, il a besoin d'eau. Et il a horreur de la lumière. Donc, le couvercle, c'est pour la lumière. Et les planches serrées, c'est pour éviter la lumière. Mais ça laissera passer quand même l'air. Des vieilles planches de bois, ça laisse passer l'air. Ce bac à compost, il faut le mettre à l'ombre. Toujours pour ce problème de lumière et de chaleur. Il va chauffer tout seul, mais il n'aime pas la chaleur du soleil. Pas trop. Donc, éviter la chaleur du soleil. Donc, on le met souvent sous un arbre. Attention, quand on le met sous un arbre, l'arbre, il va vous dire merci. Il va, en l'espace de quelques semaines, coloniser complètement le compost en cours avec les racines. Vous n'allez pas le voir, mais le jour où vous allez vouloir démonter votre compost, vous allez vous retrouver avec une motte de racines et vous aurez beaucoup de difficultés à récupérer votre compost. L'arbre en aura bien profité. Donc, pour éviter ça, vous mettez un plastique au fond. Des choses qui vont, parce que ça va durer entre 6, 8 mois, 1 an au maximum, tout dépend de la vitesse à laquelle vous le remplissez, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vider votre compost s'il y a un plastique au fond. Et pourtant, les petites bêtes, ça ne les gênera pas du tout. Elles vont pouvoir contourner facilement la feuille de plastique, aucun problème. Donc vous vous souvenez, les mélanges, vous souvenez quoi mettre, donc vous mettez tout, mais vous le mettez en couches. C'est le principe du millefeuille. Il vous faut avoir un petit outil, un petit bout de râteau, quelque chose pour étaler. Et ce sont des couches successives de matériaux. Alors, vous avez des matériaux humides, les déchets ménagers, il en vient tous les jours. Vous avez les tondes de gazon, il en vient quelques fois, deux, trois fois dans l'été, un peu plus souvent au printemps. Vous en mettez de couches, étalez sur toute la surface du bac. Vous avez les feuilles mortes en ce moment, étalez les feuilles mortes. Elles vont prendre une épaisseur comme ça, mais vous les mouillez un peu pour qu'elles se ramollissent, et ça va finir par une petite couche comme ça. C'est le principe du millefeuille. Ce millefeuille, il va s'accumuler pendant plusieurs mois, et quand c'est fini, quand c'est plein, vous refermez le couvercle, vous le laissez tranquille, vous laissez travailler les petites bêtes. On a calculé que sur 1 cm cube de compost, c'est pas gros 1 cm cube, il y a eu 3 milliards de micro-organismes et d'insectes qui sont passés pour transformer 3 kg de déchets verts en 1 kg de compost. Il y a eu 3 milliards de petites bestioles de toutes sortes, des collemboles, des choses absolument, des nématodes, des champignons de toutes sortes, qui sont passés par là. Ils ont trouvé l'adresse tout seuls, pourvu que vous ayez fait un peu attention au sel et aux produits chimiques. Donc ça marche quasiment tout seul. Vous laissez faire ça, vous entamez un autre bac à côté pour continuer, évidemment. Et quand c'est fini, vous démoulez, vous ouvrez soit un côté si c'est des palettes, soit la totalité. J'ai vu des bacs à compost qui marchaient très bien avec un rouleau de grillage Ursus, c'est-à-dire vous prenez 5 mètres de grillage Ursus, du grillage à mouton que tout le monde connaît, hein, que vous mettez en rond, ça tient debout tout seul, vous l'attachez de manière à faire un cylindre. Et pour pas que les végétaux, le fermenté cible que vous allez mettre dans le volume, donc toujours en couches successives, pour pas que ça passe à travers les mailles, vous mettez du carton tout autour et toujours un couvercle dessus, un grand couvercle pour éviter qu'il y ait trop d'eau quand il pleuve et l'humidité parte trop quand il fait chaud, et pour éviter surtout le soleil. Les UV, ça brûle le compost. Et quand c'est terminé, donc vous ouvrez et vous passez un petit coup de griffe et vous allez retrouver évidemment les coquilles d'œufs, s'il y a des coquilles d'œufs, des os qui sont pas... Ça n'a aucune importance parce que les os sont devenus très friables. Les os les plus durs, le gros os Samuel du pot-au-feu, ben, il retournera dans le tas de compost à côté. Il refera un tour jusqu'à l'année prochaine. Puis le jour où vous en avez vraiment assez, vous prenez la massette sur une pierre et vous l'écrasez. Et si vous avez des poules, elles seront ravies de manger les brisures d'os qui leur apportent énormément de calcium. Si vous avez des poules aussi, évitez de laisser les coquilles d'œufs entières, parce que vous allez leur apprendre comme ça à manger les œufs. Donc évitez de laisser les coquilles d'œufs entières si vous avez les poules. Les poules, ce sont des auxiliaires géniales pour nettoyer tous les petits insectes une fois que c'est terminé, et pour faire le nettoyage et faire du... compost fin. Je n'ai pas de poule, je fais du jardin, je prends le compost tel qu'il est, je l'étale dans mon jardin, je griffe pour l'enterrer un tout petit peu sur les premiers centimètres, pour éviter la brûlure du soleil, et je suis autonome en compost sur 500 mètres carrés de jardin.
José, si on n'a pas de jardin, comment on fait ?
Alors, si on n'a pas de jardin, on négocie avec des jardiniers qui sont ravis d'échanger des légumes contre un petit sac de compost pour donner un coup de main. C'est mon cas, mais il y a plein d'autres. Il y a des associations qui font des jardins. Mais on peut quand même faire un bac à compost. Le compost, quand il est bien fait, ne sent pas mauvais. Il peut attirer quelques mouches. Et c'est le gros inconvénient quand on a beaucoup de déchets, de viande en particulier, les os, ça peut attirer les mouches. Donc je suis d'accord, quand on vit à côté de son tas de compost, c'est beaucoup plus confortable
végétarien.
D'être végétarien.
Ou d'avoir un chien qui ronge les os avant de les mettre.
Il y a deux autres grands intérêts auxquels on ne pense pas du tout. On a parlé de la production de fruits et légumes. Je fais le lien là avec ce qui s'est passé le mois dernier avec Incroyable Comestibles, qui eux ont besoin de compost. Donc le compost, si vous ne l'utilisez pas vous, d'autres s'en serviront. Et il y a un autre point très intéressant, c'est que vous allez séquestrer du carbone, vous allez retirer, c'est-à-dire vous allez bloquer le gaz carbonique qui va se retrouver en carbone dans le compost, vous allez le séquestrer dans le sol. Et on a calculé, maintenant il y a une opération, vous allez voir sur internet, on va commencer d'en parler, ça s'appelle Initiative 4 pour 1000. Vous tapez 4 pour 1000 sur internet, vous allez trouver, vous allez voir 170 pays qui ont eu la révélation et qui se sont dit, ben oui c'est vrai, on pourrait encourager nos paysans à recycler leurs propres déchets plutôt que de les balancer à la mer comme le font les Bretons avec leur lisier. Et ça commence à faire son chemin. Mais il n'y a pas que les paysans qui peuvent recycler. Nous aussi, en centre urbain, on peut le faire. Et de plus en plus, les jardins se développent en milieu urbain. Et vous allez travailler aussi pour la planète en faisant baisser le gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais on trouve ces informations compostage partout. Maintenant, il y a le côté pratique. Je serai à votre disposition pour découvrir avec vous le compost qui a été mis en route depuis à peu près un mois à la cantine solidaire. Et j'aurai apporté quelques petits accessoires, de la sciure de bois, de la cendre, qu'est-ce que je vais apporter ? Des petites bricoles, pour voir s'il y a des choses à modifier, à améliorer, et pour rassurer nos amis de la cantine solidaire, pour savoir si leur compost marche bien ou pas, parce que là, ils se posent des questions, c'est, est-ce qu'on met les eaux ou pas ? Est-ce qu'on en met trop ou pas ? On verra tout ça avec eux demain. Et on pourra peut-être terminer en passant chez moi, c'est pas très loin, où j'amènerai peut-être un sac avec mon compost, la cantine solidaire, derrière la Bourse du Travail.
Merci, merci beaucoup, José. Et merci aussi d'avoir initié un compost à la cantine solidaire. C'est vrai que nous, ça nous faisait un peu mal au cœur de savoir que la cantine n'avait pas de compost. Il fallait quelqu'un pour les motiver. Merci de l'avoir fait.
Well, it's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Beyrouth avec le titre Nantes sur Radio 16. Vous écoutez l'émission Le Chant des Colibris qui a été animée par Céline Elodie. Elle s'intéresse ce mois-ci à la réduction des déchets. Pour cela, comme nous venons de le voir, il y a un outil indispensable, le compost. Il permet de réduire nos déchets d'un tiers et de transformer en bon terreau nos déchets biodégradables. Pour cela, il suffit d'avoir un jardin ou de faire ami-ami avec celui des voisins. Et pour le reste de nos déchets, pourrait-on s'en passer ? Eh bien oui, grâce à l'achat en vrac, comme nous l'explique maintenant Laurie, qui a ouvert depuis un an Canturla, l'épicerie vrac zéro déchet à Alès.
Allez Laurie, bienvenue à ton tour de venir nous parler donc de Canturla.
Alors bonsoir, moi je m'appelle Laurie, donc je suis la gérante de l'épicerie Canturla qui se trouve dans la zone commerciale Étoile 2000 à Clavière. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est l'ancien Crédit Agricole. Il y a un petit parking, vous pouvez vous garer, vous avez tout sur place. Alors Canturla, en Occident on dit Canturla, et enfin vous dites Canturla. Donc Canturla en Occident c'est le bon sens, parce qu'en fait c'est simplement le bon sens d'acheter des produits sans emballage et d'acheter des produits en priorité locaux. Donc nous avons une majorité de produits bio, donc on a à peu près 80% de produits bio, mais pas que. Parce qu'en fait, le principe c'était vraiment l'écologie et le bio n'est pas toujours écologique, je suis désolée.
Oui, oui, c'est sûr qu'acheter des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande, alors qu'on en a ici dans les Cévennes, même si ceux de Nouvelle-Zélande ils sont bio, à un moment, il y a un truc qui n'est pas logique.
Mais surtout les acheter au mois de février, c'est encore plus écolo.
Bien sûr.
Travailler avec des produits de saison, prendre des produits locaux, enfin voilà, et le vrac bien sûr. Donc nous n'avons pas que du bio, donc je vous le précise parce que c'est vrai que les gens des fois sont un peu déçus parce que j'ai pas que du bio. Et non, parce que nous travaillons avec des petits producteurs qui font au maximum 40 km autour d'Alès, qui n'ont pas toujours le label bio, puisque ce sont des petits producteurs et c'est très cher d'avoir un label bio, mais qui sont donc un produit naturel, soit en Nature et Progrès, soit simplement un naturel. Alors nous avons pratiquement que des produits secs, donc c'est une épicerie vrac. C'est pas le principe n'est pas de remplacer le fait que vous alliez faire vos courses au marché. Donc, nous n'avons pas de viande, de légumes, etc., frais, ultra frais. Nous avons quand même des légumes, nous avons des produits, donc des légumes, nous avons des pommes de terre, des carottes, des navets, parce qu'en ce moment, tout se garde, donc il n'y a pas de souci. Des oignons, de l'ail, tout en bio et en local, donc ça c'est bien parce que c'est les deux. Nous avons des livraisons de poulets bio locaux une fois par semaine aussi sur commande. Et nous avons aussi fromage de chèvre, enfin jusqu'à la semaine prochaine, puisque peu cher, elles vont me chevrotter. Donc, on n'en aura que mois de mars. Mais nous avons que du sec, c'est-à-dire vous trouverez tous les produits en sec, donc ceux dont vous avez besoin surtout l'hiver. Donc, je pense par exemple toutes les pâtes, les semoules, les sucres, les épices. Et vous avez
les céréales,
toutes les noix, tous les fruits secs, tous les légumes secs. Nous avons aussi tout ce que nous n'avons pas en France en bio, mais commerce équitable. Donc ce sont les thés. Nous avons 23 sortes de thés au vrac. Du café, du chocolat, bio, commerce équitable. Et nous avons les liquides. Alors ça, je sais que c'est vraiment une particularité puisqu'il n'y a pas beaucoup d'épiceries, même sur les magasins bio qui font du vrac, qui font le liquide. Et nous avons toutes les huiles, les vinaigres, les lessives, les shampoings, les gels douche, etc., etc., etc. Le principe, c'est ça.
Ouais. Voilà. Alors, le principe, comment ça se passe?
Parce comment que, ça se
comment
passe
je pars avec mon shampoing, ma lessive, mon truc, si j'ai pas d'emballage?
Le principe, c'est vous amenez vos boîtes, vos pots, vos bouteilles, vos flacons de la maison quand ils sont vides. Ça sert à rien de venir en acheter si vous en avez chez vous. Et vous venez les remplir. Moi, je pèse tous vos pots, tous vos flacons, toutes vos bouteilles, et je déduis le poids de votre pot. Donc, vous payez réellement que le produit et pas d'emballage. Voilà. C'est hyper important parce que c'est vraiment le truc sur lequel on voulait agir, c'était vraiment de diminuer l'emballage.
Et si on n'a pas d'emballage?
Alors, si on n'en a pas, on a des bocaux, on a des bouteilles, on a tout ce qu'il faut, on vous les prête, et puis quand vous revenez avec vos pots, ben, vous les ramenez. Voilà, ça marche pour tout le monde. Alors évidemment, acheter dès le départ en vrac, ben, ça diminue aussi tout ce qui va dans le sac jaune de Silver, mais voilà, après ça n'empêche pas de trier quand même, hein. Je veux dire que c'est hyper important de trier, même parce qu'il y a certaines choses que vous pourrez éventuellement pas vous passer d'acheter de toute façon un supermarché ou quoi que ce soit. Après, nous, on a plein d'astuces en naturel pour vous aider à remplacer tout ce qui est produits chimiques, etc., etc. Voilà, on a un super truc qui existe, c'est le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc, on peut tout faire avec. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir.
Donc, ça va être surtout là-dessus, l'atelier que tu proposes. Après, c'est justement tous les trucs et astuces, donner
non,
des
on
idées.
Non, il y a plein d'autres choses, oui. Il y a comment fabriquer ses yaourts, fabriquer tout ce que vous êtes obligé d'acheter. Mais en fait, c'est super simple de diminuer le déchet, mais il suffit juste d'y réfléchir à la base quand on consomme.
Toi, en fait, l'épicerie, elle vient compléter le marché, on pourrait dire, justement, oui. Là, pour au marché, on achète ses produits frais, où on n'a pas besoin non plus de beaucoup d'emballage, hein, on y va avec son panier, y a pas...
Mais on y va juste avec son panier.
Voilà, c'est ça, ça suffit. Et donc, on peut compléter tous les produits secs, etc., à l'épicerie quand tu hurles.
Ouais.
et du coup après voilà, il nous reste pas grand chose à aller acheter au supermarché effectivement.
Non, et puis après
le papier toilette, les bougies.
Alors, le seul truc c'est voilà, le papier toilette on en a pas parce que je ne trouve pas de fournisseur qui m'enverrait le papier toilette sans emballage plastique. Mais je c'est pas dit que je baisse pas les bras. Hein. je rentre tous les mois des nouveaux produits et j'espère à chaque fois arriver à Je demande au fournisseur de faire un effort, mais je suis sûre que tout le monde peut demander en fait au fournisseur avec lesquels chez qui on va de le faire. C'est juste parce que ils y pensent pas. C'est tellement plus simple pour eux. Ils sont dans ce fonctionnement depuis tellement longtemps que voilà. Il y a certaines choses que même si vous cuisinez pas, vous pourrez trouver un traiteur qui vous mettra dans votre Tupperware quoi. L'Urban Park a un côté traiteur et on m'a dit que c'était même moins cher si vous ameniez votre Tupperware. Alors peut-être qu'en fait, à force, ça va venir. Voilà, c'est juste, je pense que c'est ça. Les Malakoff font l'effort de nous faire des Malakoff sans emballage exprès, donc il suffit juste de leur poser la question.
Malakoff, c'est du chocolat pour ceux qui savent.
Les chocolats de Saint-Christol, ils font des Malakoff avec des petits emballages dorés. On a toujours vu ça quand on était petit et je pensais qu'ils refuseraient parce que c'est quand même leur marque.
De fabrique.
Ouais, c'est le truc qui fait qu'on reconnaît les Malakoff, c'est l'emballage, et ils nous ont dit, bah d'accord, on le fait sans emballage pour vous. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils ne se posent pas la question, il faut juste un peu les pousser, et après, ils disent, bah d'accord. Je pense que ça peut marcher vous aussi au quotidien, dans plein de trucs. Quoi.
Ouais. Merci en tout cas d'avoir lancé cette initiative sur Alès. Et juste une petite question, toi au niveau poubelle justement, t'en es où alors du coup, tu n'as plus de poubelle?
Alors bon, nous on a déjà un compost, donc c'est vrai qu'on gagne, on a déjà ça. J'ai pas de poule, hein. Mais après, pour à peu près... J'ai forcément plus d'emballage. Donc, je dirais qu'un sac de tri sélectif, parce que j'ai quand même des chats, donc il y a des boîtes pour le chat. Voilà. Donc, le sac de tri sélectif, je dois en remplir un entier, un sac jaune, il doit faire un mois. Avant, il faisait une semaine. Et une poubelle normale, il y a vraiment, si on a du monde et qu'il nous amène des papiers à la maison, dans ce cas-là, on aura de la poubelle, mais sinon, on n'en a pas du tout. Puisqu'en fait, en ayant tout dans des bocaux, vous avez jamais rien à jeter. Voilà, on a les papiers du boucher, voilà, à jeter.
Et puis c'est joli les bocaux sur les étagères, donc faut y penser, ça redevient la mode.
C'est ça. Oui, c'est joli, hein, vous pouvez tout customiser. Moi j'ai des clientes qui sont là, j'en ai vu arriver tout à l'heure, qui ont des super bocaux avec des super étiquettes. Elle est là-bas et elle a, à chaque fois qu'elle arrive, elle a customisé son bocal, il est trop joli et ça donne vraiment envie quoi, voilà.
Bah, tout comme d'ailleurs dans ton épicerie, c'est vrai que c'est très beau, hein, ça fait penser aux épiceries à l'ancienne où on voyait dans les bocaux ce qu'on allait acheter, tout ça.
Mais oui, parce que c'est pas parce qu'on achète sans emballage qu'on n'est pas à Brico Dépôt, on n'est pas obligé d'avoir tout comme ça sur les étagères laid, donc on a essayé de faire un effort.
Ouais, c'est super.
Les colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris, et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Et pour réécouter cette émission, c'est quand vous voulez sur le www.radio16.net.